De la Genèse à l'Apocalypse, il est question dans la parole de Dieu d'un thème qui revient sans cesse. C'est celui de la sagesse. Alors, si je faisais un petit sondage aujourd'hui, je suis sûr qu'il y aurait plein de réponses qui viendraient spontanément pour dire qui dans la Bible a parlé de la sagesse. Alors, je vous laisse quand même juste fuser dans vos réponses pour faire un petit tour d'horizon rapidement. Salomon, c'est vrai. L'Ecclésiaste aussi, il en est bien question. Job, très juste, il en a beaucoup parlé aussi. Et encore, bien sûr, mais oui, Jacques, demandons la sagesse. Oui, encore quelqu'un, peut-être. Jésus, oui, effectivement, Jésus et le grand apôtre qui est venu après Jésus. L'apôtre Paul, bien sûr, en a parlé aussi beaucoup. Alors, je n'étais pas sûr que le nom duquel j'ai tiré le texte allait sortir, et pourtant c'est le cas. Et je vais vous lire un chapitre dans le livre de Job, justement, qui parle de la sagesse. Donc je ne vais pas vous montrer le texte pour l'instant, parce que j'aimerais que vous puissiez bien l'écouter. Il apparaîtra un peu plus tard. J'ai un titre dans ma version de Bible qui annonce ce chapitre de cette manière. Qui peut avoir la sagesse? Alors écoutez bien cet hymne à la sagesse. Il existe des lieux d'où l'on extrait l'argent. Il y a des endroits où l'on affine l'or. On sait comment extraire le fer de la poussière, fondre le minerai pour en tirer le cuivre. On fait reculer les frontières des ténèbres sous terre. On explore les mines. On va chercher les pierres noires dans d'opaques ténèbres. Dans les galeries que l'on perce, à l'endroit où le pied a perdu tout appui, les mineurs se balancent suspendus dans le vide, loin des autres êtres humains. La terre qui nous donne le pain qui nous nourrit se voit bouleversée jusqu'en ses profondeurs, tout comme par un feu. C'est dans ces roches qu'on trouve les saphirs et la poussière d'or. L'oiseau de proie ignore quel en est le sentier, et l'œil de l'épervier ne l'a pas repéré. Les plus fiers animaux ne l'ont jamais foulé. Le lion n'y passe pas. On s'attaque au granit, on remue les montagnes jusqu'en leur fondement. Au milieu des rochers, l'homme ouvre des tranchées. Rien de précieux n'échappe à son regard. Il arrête le cours des eaux et amène au grand jour les richesses cachées. Mais, quant à la sagesse, où peut-on la trouver? Où donc l'intelligence a-t-elle sa demeure? L'homme ne connaît pas quelle en est la valeur, et elle est introuvable au pays des vivants. L'abîme affirme, elle n'est pas ici, et l'océan déclare, elle n'est point chez moi. On ne peut l'acquérir avec de l'or massif, on ne peut l'acheter en pesant de l'argent. Elle ne se compare pas avec de l'or d'Ophir, ou le précieux onyx, ni avec du saphir. Ni l'or, ni le cristal n'ont autant de valeur. on ne l'échange pas contre un vase d'or fin. Le corail et l'albâtre ne sont rien auprès d'elle. La sagesse vaut plus que des perles précieuses. La topaze éthiopienne n'égale pas son prix. Et l'or le plus fin même n'atteint pas sa valeur. Mais alors, la sagesse d'où provient-elle? Et où l'intelligence a-t-elle sa demeure? Elle se cache aux yeux de tout être vivant, elle se dissimule à l'œil vif des oiseaux. L'abîme et la mort disent « Nous avons seulement entendu parler d'elle. » Car c'est Dieu seul qui sait le chemin qu'elle emprunte. Oui, il en connaît la demeure, car son regard parcourt le monde entier. Et tout ce qui se passe sous le ciel, il le voit. C'est lui qui a fixé la pesanteur du vent et donné leur mesure à tous les océans. Lorsqu'il a établi une loi pour la pluie et tracé un chemin aux éclairs, au tonnerre, c'est alors qu'il l'a vu et en a fait l'éloge. Il a posé les fondements de la sagesse et l'a sondé. Puis il a dit à l'homme, « Révérez le Seigneur. Voilà la vraie sagesse. Se détourner du mal, voilà l'intelligence. » Je ne sais pas quelle est la première impression que vous a laissé ce texte. Si je mets un tout petit peu de côté la conclusion magistrale de Job. Je vous donne la mienne, mais cela fait un peu de temps que je médite sur ce texte. En fait, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais Job a un œil vif pour décrypter ce qui se passe autour de lui. En observateur attentif de son temps, scrutant avec beaucoup de pertinence l'activité humaine. On pourrait presque dire que c'est l'œil d'un sociologue avant l'heure. Nous y reviendrons. De la sagesse, Job en a donc parlé, et de quelle manière? J'aimerais juste dire un mot au sujet du contexte dans lequel ce texte vient s'inscrire. Ce chapitre 28 est un interlude dans le livre entre le dialogue en trois parties, entre Job et ses trois pseudo-amis, et les trois monologues de Job, Élihu, et enfin Dieu lui-même qui vient conclure ce livre en se révélant encore davantage à Job. Alors je propose pour la méditation de ce matin un plan en trois et même quatre parties. Dans un premier temps, pour dire que les versets 1 à 11, la recherche humaine n'a pas découvert la sagesse. Dans un deuxième temps, la richesse humaine ne peut acquérir la sagesse. Et bien sûr, dans un troisième temps, Dieu seul possède la sagesse. C'est son don. Au verset 12, vous avez peut-être entendu, j'avais marqué une petite pause pour y arriver. Au verset 12, puis au verset 20, apparaît la question fondamentale. Où se trouve la sagesse? Où est l'intelligence? En effet, comment et où trouver la sagesse pour ma vie? Puis-je trouver l'intelligence? Au verset 28, la réponse à cette question est donné. Alors la sagesse, bon désir la posséder. Je pense que c'est un désir que chacun de nous a dans son cœur. On désire vivre selon elle pour notre vie quotidienne. C'est certainement ce que chacun demande dans ses prières. Chacun de nous en a besoin pour prendre les bonnes décisions, connaître comment bien agir, bien parler. Le premier point, ai-je dit, c'est que la recherche humaine n'a pas découvert la sagesse. Nous constatons, au travers de la première partie de ce texte, des versets 1 à 11, nous constatons les merveilles que l'homme a pu découvrir. Or, argent, fer, bronze, les pierres noires, le feu, les saphirs, le granit, mais aussi la culture des céréales pour le pain de chaque jour. On nous parle des prouesses technologiques des hommes, comme les galeries minières, les carrières, les tranchées et même les barrages, les écluses ou les canaux, tout cela déjà à l'époque de Job. Les versets 7 à 8 nous donnent même un autre détail intéressant. Job se fait ornithologue et parle de l'épervier connu pour son excellente vision. Il mentionne le lion pour son courage et même l'épervier ou le lion, dans leur perspicacité et leur capacité, n'accomplissent pas ce que l'être humain a déjà pu réaliser. Ce constat n'échappe pas à l'idée que se fait Job au sujet de la création que Dieu a dotée, le monde, créé de capacités extraordinaires. Et s'il nous arrive de lire quelques revues scientifiques spécialisées, que l'on s'intéresse à toutes les inventions ou découvertes que l'homme a pu réaliser, on ne peut qu'être émerveillé. Pensons à la conquête de l'espace, aux satellites, aux puces électroniques, à la vitesse de l'information qui fait le tour de la Terre, à la construction des ponts, aux TGV, aux avions, aux prouesses dans le domaine médical, et j'en passe. Job aurait de quoi alimenter sa quête des prouesses dont les hommes sont capables s'il voyait toutes les inventions qui fleurissent chaque jour. Voilà quelques références, quelques exemples qui font référence à la définition que Descartes faisait de la sagesse. C'est assez concis, c'est assez simple. Parfaite connaissance de toutes les choses que l'homme peut savoir. C'est d'ailleurs ce qui a fait que beaucoup de nos contemporains ont fini par déifier la science, qui se sont même parfois cru plus forts que Dieu. Mais le constat de Job, il reste aujourd'hui le même. La recherche humaine n'a pas découvert la sagesse. Mais la sagesse, où se trouve-t-elle? C'est la question que Job se pose après avoir fait ce constat. Où est l'emplacement de l'intelligence? Il suffit de poser la question pour avoir cette réponse. La recherche humaine n'a pu découvrir la sagesse. Dans le fond, sommes-nous plus avancés aujourd'hui? Passons au deuxième point. La richesse humaine ne peut acquérir la sagesse. La deuxième partie de ce texte relate un autre aspect très humain, très contemporain, la richesse humaine, les biens matériels et précieux. Est-ce que nous pouvons, par exemple, aller dans un magasin et demander d'acheter la sagesse et la négocier même à un prix fort. « Bonjour, madame, j'aimerais 24 kilos de sagesse, s'il vous plaît. Combien ça coûte ?» Il n'est pas toujours simple de traduire le nom de toutes les pierres mentionnées ici. Or pur, argent, or d'ophir, onyx, saphir, du verre, du cristal, des perles, de la topaze. L'or est 4 fois mentionné. Pensez aux fameuses ruées vers l'or sur les pistes du Yukon et comment les gens étaient parfois devenus comme fous pour essayer d'atteindre ce projet. Y a-t-il jamais eu une ruée vers la sagesse? Ce qui est sûr, c'est que l'homme n'en connaît pas le prix, nous dit Job. Il n'en connaît pas la valeur, le chemin. Il n'y a pas de chemin, de lieu, un prix fixé pour acquérir la sagesse. La sagesse n'a pas de valeur quantifiable du point de vue humain. C'est quelque chose que le roi Salomon, qui a été aussi mentionné tout à fait, tout à l'heure, le roi Salomon savait bien. En 1 Roi 3:5, il a demandé à Dieu non pas une longue vie ou de grandes richesses, mais la sagesse pour bien gouverner le peuple de Dieu. Et Dieu l'a lui accordé, puisque en 1 Roi 5:9 à 14, on nous dit qu'il était plus sage et intelligent que n'importe quel autre. On venait de très loin pour admirer sa sagesse. La richesse humaine ne peut acquérir la sagesse. Alors, vient au verset 20 la même question que Job pose. Alors, donc, d'où vient la sagesse? Où est la demeure de l'intelligence? Ainsi, on s'attend à ce que Job nous en dise plus. Et voilà le fruit de sa pensée. Dieu seul possède la sagesse, c'est son don. Il y a du suspense dans les versets 20 à 22. Au verset 21, on ne nous dit toujours pas où elle se trouve. Au verset 22, ça se précise plus. Et au verset 23, la délivrance arrive. C'est Dieu qui en sait le chemin. C'est lui qui la connaît. Pourquoi? Eh bien, parce que Dieu est omniprésent. Il est omniscient. Il sait tout et est présent partout. Ces quelques versets sont prodigieux. Ils décrivent le Seigneur comme le créateur de toutes les fameuses lois de la nature. Le vent, les océans, la pluie, les éclairs, le tonnerre. Cela veut dire que Dieu est plus grand que les hommes, parce qu'au contraire des humains qui ne font qu'utiliser des matériaux déjà existants pour inventer, Dieu, en effet, a créé les cieux et la terre à partir de rien. Et vient ensuite le verset 27, « Dieu a vu, il a manifesté, il a révélé, il a évalué, posé les fondements de la sagesse. » Il en a fait l'éloge. L'apôtre Paul, qui a aussi été mentionné tout à l'heure, s'est fait l'interprète de ses propos en focalisant sur la personne de Christ en qui la sagesse est pleinement révélée. J'aimerais lire dans 1 Corinthiens, au chapitre 1, un texte qui est certainement bien connu de chacun de vous. En Corinthiens 1, les versets 18 à 25. En effet, la prédication de la mort du Christ sur une croix est une folie aux yeux de ceux qui se perdent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est la puissance même de Dieu N'est-il pas écrit « Je détruirai la sagesse des sages et je réduirai à néant l'intelligence des intelligents ». Où est le sage? Où est l'interprète de la loi? Où est le raisonneur de ce monde? Dieu n'a-t-il pas changé en folie la sagesse du monde? En effet, là où la sagesse divine s'est manifestée, le monde n'a pas reconnu Dieu par le moyen de la sagesse. C'est pourquoi Dieu a jugé bon de sauver ceux qui croient par un message qui paraît annoncer une folie. Dans Colossiens 2:3, l'apôtre Paul dit ceci aussi, « En Christ sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. » Aux Corinthiens, il montre aussi, dans un autre texte, il montre la vanité de la sagesse humaine en comparaison à celle de Dieu, qui est une puissance. Et cette sagesse, c'est l'Esprit qui nous la révèle. Le message de Jésus-Christ, dont nous avons évoqué son œuvre tout à l'heure, le message de Jésus-Christ crucifié pour nos péchés et glorifié, voilà la véritable sagesse selon Dieu. Alors, je poserai une dernière question ce matin pour conclure. Comment posséder la sagesse? Comment vivre de la sagesse? D'après Proverbes, chapitre 1, les versets 7 et les versets 1, 2 et 3, on peut décliner les choses globalement de cette manière-là. La sagesse, elle concerne l'éducation, l'instruction, la connaissance, la discipline. C'est un terme dynamique. Le but, c'est de l'acquérir. C'est parfois dur, sévère. Il est accompagné de réprimandes. La connaissance de la vérité, c'est ce qui nous relie à Dieu lui-même. Il est question de l'intelligence aussi, du discernement. Il en est beaucoup question dans ce livre des Proverbes. Le don du discernement dans le Nouveau Testament, discerner le bien du mal, le cœur y joue un rôle clé. Il y a aussi le bon sens, la prudence, le fait d'être éclairé, avisé, prudent, une sagesse pratique, un savoir-faire, savoir comment s'y prendre, prévenir le danger, comme Jésus l'a annoncé à ses disciples, « Soyez prudents comme des serpents ». Mais revenons pour conclure à notre texte de Job 28 et à la conclusion de ce chapitre. « Révérez le Seigneur, voilà la vraie sagesse. Se détourner du mal, voilà l'intelligence. Associé à la crainte du Seigneur, cela veut bien dire le révérer, l'honorer, le respecter dans sa personne, sa sainteté, son amour, sa justice aussi. Désirer avoir un comportement, une conduite conforme à la volonté de Dieu. S'il existe une peur, c'est celle de lui désobéir, de lui déplaire. Pierre Lachat, dans un de ses chants, qui s'intitule « Tu rigoles », s'élève contre un comique qui bafoue Dieu dans un de ses sketchs. Et voici ce que chante Pierre Lachat. « Tu as craché sur la tendresse de celui qui t'a tant aimé. » Il y a parfois un manque de respect pour Dieu, pour sa sagesse, pour son amour, pour sa tendresse, sa vérité, sa justice. Tous ceux qui désirent posséder la sagesse le peuvent. Il suffit de la demander. C'est à ce texte que certainement nous allons faire référence quand on a cité Jacques. Peut-être avons-nous parfois tendance à se croire exempt de venir vers Dieu dans la prière pour être conduit par Dieu, inspiré par lui, pour faire tel ou tel choix, prendre telle ou telle décision. On s'appuie parfois sur notre propre expérience et le résultat n'est pas toujours des plus heureux. Deux ou trois petits exemples pour illustrer cette vérité. Révérez le Seigneur, c'est lui qui donne la sagesse. D'une personne tout d'abord qui travaille dans le domaine de la santé, elle nous envoie ce SMS. Un petit appel inhabituel à la prière. Juste besoin de savoir que des gens sont sur la brèche avec moi. Impression d'être sur un champ de bataille au boulot concernant des projets où je suis en première ligne. Besoin de sagesse, d'humilité, de lucidité et de courage pour discerner ce à quoi dire oui et non. Merci d'avance. Dans un contexte, cette fois-ci, totalement différent, mais combien signifiant, je vous lis un petit témoignage tiré du journal de Porte Ouverte. Ce témoignage vient d'Asie centrale. C'est une femme qui s'appelle Naïda qui le donne. Avant de devenir chrétienne, Naïda respectait le jeûne et les traditions du Ramadan. Puis, pendant plusieurs années, elle ne l'a pas célébré. Ses proches ont cessé de lui parler, ne l'ont plus invitée et ne sont plus venus chez elle. Elle les avait trahis pour suivre un dieu étranger. Mais, comme Naïda voulait témoigner de l'amour de Jésus auprès de sa famille, elle a demandé à Dieu la sagesse. Elle a alors recommencé à vivre le Ramadan, mais d'une manière complètement différente, pour reconstruire des relations avec ses proches. Pendant un mois, elle cuisine des plats traditionnels et invite sa famille et ses voisins musulmans. Elle leur montre ainsi son respect pour leur tradition tout en leur parlant de Jésus. Je conclus. Avec ces paroles, révérez le Seigneur, c'est une attitude de crainte respectueuse envers Dieu, un désir de lui faire connaître nos besoins, demander sagesse et discernement pour chaque décision importante à prendre, trouver un équilibre entre progrès matériel et désir de justice. Je vous invite aussi à faire des lectures comme celle que nous trouvons dans ce journal du sel. Et je termine par une petite réflexion tirée d'un article qui a paru dans un petit livre aux éditions Ménonites. Ça, c'est un petit clin d'œil à mon ami Marc-André. Et voilà ce qu'il est dit. Être juste devant Dieu, c'est aussi être généreux. En Ézéchiel, Dieu décrit l'homme qui est juste comme celui qui donne son pain à celui qui a faim et couvre d'un vêtement celui qui est nu. Voilà quelques exemples qui nous invitent à regarder de quelle manière nous pouvons nous placer devant Dieu, le révérer et être animés de sa sagesse. Que le Seigneur nous l'accorde et nous bénisse dans notre témoignage à chacun et à chaque jour. Amen.